When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous La Bulle et on va parler de carrière, de travail, de sens aussi et de comment des femmes redessinent la réussite sociale. Souffrance au travail, procès pour harcèlement, burn-out, on en parlait dans notre dernier épisode de La Bulle. Objectif toujours plus élevé, mais avec toujours moins de moyens. Pression, parfois suicide. Depuis des années, le système d'organisation du travail est remis en question. Dans ce modèle qui tire, certaines femmes, les plus diplômées, les plus aisées, choisissent d'abandonner les carrières prestigieuses pour s'en inventer d'autres. Gagner moins, moins 30%, 40%, 50% de moins que dans une grosse boîte, mais gagner en épanouissement, en temps aussi pour la vie privée, la vie familiale. Qu'est-ce que cet abandon de la grosse carrière? Quel changement? Pour quelle réussite professionnelle? Qu'ont trouvé ou retrouvé ces femmes dans ce changement de vie? Céline Alix a mené l'enquête auprès d'une cinquantaine de femmes dans son essai « Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale » publié chez Payot. Cette ex-avocate dans de grands cabinets anglo-saxons a tout claqué il y a 10 ans pour fonder une structure de traduction juridique. Elle travaille avec 7 autres anciennes avocates pour 2 grands cabinets, des ONG à son rythme, selon ses convictions. Première question à Céline Alix pour poser le cadre. Qu'est-ce que cet abandon de la carrière confirmée pour s'en inventer une nouvelle?
D'abord, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de toutes les femmes. C'est vrai que ce sont des femmes qui sont dans des situations privilégiées, qui ont fait des grandes études, qui ont atteint des grands postes et qui, au bout d'un moment, s'aperçoivent que le modèle de réussite qu'on leur propose, auquel elles ont accédé, ne leur convient pas. D'où le titre « Merci, mais non merci ». C'est vraiment s'apercevoir que c'est un monde du travail qui a été créé par des hommes, parce qu'il faut le rappeler, historiquement, les femmes sont arrivées en deuxième partie. Et donc, elles atterrissent dans un monde qui est déjà établi, avec des codes établis, et elles s'aperçoivent que le modèle qu'on leur propose ne leur convient pas, et qu'elles, si elles l'avaient inventé, elles l'auraient fait différemment. Donc, ce sont des femmes qui ont été déçues par le système actuel, et qui décident non pas d'abandonner toute vie professionnelle, mais de bâtir sur leurs expériences et leurs acquis pour inventer un nouveau modèle qui leur convient mieux. Ce qu'il faut dire, c'est que aux États-Unis, ce phénomène a été déjà identifié par des sociologues. Ça s'appelle le opting out. Alors, opter out, c'est opter, c'est choisir de sortir du système. Donc là, on sort définitivement du système et en l'espèce, on rentre à la maison pour s'occuper de la maison, de la famille, on arrête de travailler. Les Françaises, elles, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne décident pas de sortir du système, elles décident d'en inventer un autre, en marge de celui qui existe. Donc, je dirais plus qu'elles font un pas de côté pour inventer un système qui leur convient mieux.
Je fais un exemple. Je suis DRH dans un grand groupe français. Je ne me retrouve plus dans cette grande entreprise. Je vais quitter ce poste, mais je vais créer soit une nouvelle activité, soit rejoindre une autre entreprise pour rester indépendante, pour poursuivre ma carrière, pour réussir professionnellement. C'est ça le modèle à la française.
C'est ça. C'est ne pas forcément renoncer à la formation qu'on a eue, à l'expérience qu'on a eue, c'est bâtir sur ses compétences. Donc moi, j'ai interviewé une cinquantaine de femmes et sur ces 50 femmes, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont vraiment opéré une reconversion totale, c'est-à-dire qu'elles ont repris des études et elles se sont lancées dans une activité totalement différente. Mais la majorité utilise ces acquis pour bâtir quelque chose d'autre avec d'autres gens, selon d'autres horaires, avec d'autres codes. Elles inventent vraiment leur manière de travailler.
Vous avez interrogé 50 femmes pour votre enquête. Toutes ces femmes, elles ont des gros postes, elles ont un bagage université très important. Il y en a pas mal qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait aussi Polytechnique. Ce sont donc l'élite, le gratin du gratin. Est-ce que le changement de société dont vous parlez, donc de ces femmes qui abandonnent ces carrières pour s'en inventer d'autres, Est-ce que c'est pas un changement de société pour quelques-unes, les happy few, ou est-ce que c'est pour toute la société?
Effectivement, moi, les femmes que j'ai interviewées sont issues d'un milieu privilégié et donc elles ont pu faire ce choix de changer de carrière. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même une tendance plus générale qui s'observe, je trouve, dans la société française. On parle de plus en plus de reconversion chez les femmes comme chez les hommes, d'ailleurs. Il y a une enquête intéressante qui est effectuée par Deloitte tous les ans sur les millennials. Donc, c'est une enquête qui est faite sur 10 000 jeunes actifs qui ont entre 26 et 36 ans. Pour 83% de ces jeunes, l'entreprise ne doit pas seulement se définir par sa performance, mais doit aussi contribuer à améliorer la société, promouvoir la diversité et l'ouverture. Donc, les jeunes, il me semble, vont aussi dans ce sens de vouloir redéfinir qu'est-ce que la réussite aujourd'hui. Et donc, on en vient à la définition de la réussite professionnelle ou sociale. Moi, je pense que la réussite professionnelle, c'est plus gagner de l'argent, avoir du pouvoir, avoir un statut. C'est davantage s'épanouir dans toutes ses vies, dans ses différentes vies. J'entends par là vie personnelle, vie professionnelle, vie amicale. Et il me semble que les jeunes vont aussi dans cette direction. Donc, je pars de ces femmes privilégiées, mais je pense que le thème et l'enjeu et la réflexion est beaucoup plus général.
Comment prendre le pouvoir dans une nouvelle carrière? Le premier point, vous dites, l'approche sororale de la relation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Prendre son destin professionnel en main, ça repose effectivement sur trois piliers. Le premier, c'est l'approche sororale de la relation professionnelle. Alors, je l'ai beaucoup à cœur parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez nouveau. On voit des sociétés, des structures, des startups qui se montent entre femmes uniquement, et ça donne à voir un peu comment deux femmes interagissent professionnellement. Et on s'aperçoit que parfois, c'est très différent de ce qui se passe entre deux hommes dans une même situation. La sororité, on la connaît dans la sphère personnelle, mais dans la sphère professionnelle, la sororité, c'est trois choses. C'est une volonté de travailler ensemble, c'est se dire « Ah tiens, j'ai une femme en face de moi, qu'est-ce que je peux expérimenter avec elle ? Sur quelle longueur d'onde on peut se fonder ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» C'est, même si ce mot est assez galvaudé, c'est la bienveillance et la confiance. C'est se dire « je n'entre pas dans une relation tout de suite compétitive, combative, mais je mets mes cartes sur la table et j'essaie de faire quelque chose de constructif avec cette femme. » Et enfin, c'est une ouverture vers l'autre. À nouveau, c'est écouter l'autre avant d'essayer de s'imposer.
Je rebondis en fait sur ce que vous venez de dire. Est-ce que cette approche sororale n'a pas une limite? Est-ce que les femmes sont plus bienveillantes et sont plus dans la coopération? Est-ce que ça enlève toute compétition, toute jalousie entre femmes?
Bah écoutez, moi, ça fait 10 ans que je travaille qu'avec des femmes. On est 8. Et franchement, ça se passe de manière très fluide parce que je pense qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes objectifs. Je pense qu'au contraire, nous, ce qui nous anime, c'est l'efficacité. On veut travailler bien, efficacement, rentrer à la maison le soir pour faire autre chose. Et quand les femmes ont ce même objectif d'efficacité, je pense que ça peut être d'une performance incroyable. Donc, elles se retrouvent en fait sur ce mot d'efficacité. Et je pense que par le passé, elles n'ont pas eu l'occasion de l'expérimenter parce qu'il y avait très peu de femmes dans les hautes sphères, etc. Donc si elles jouent à expérimenter cette relation, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose d'hyper constructif et de satisfaisant en plus.
Le deuxième axe de travail, vous dites, pour prendre en main son destin, s'inventer une nouvelle carrière, il faudrait un espace-temps plus poreux.
Alors, je me suis aperçue que les femmes, ce qu'elles aiment, c'est bouger, c'est passer d'une chose à l'autre, de la vie personnelle à la vie professionnelle, etc. Et elles n'aiment pas être enfermées dans un bureau entre quatre murs, entre 9h du matin et, que sais-je, 19h, 20h. Et donc, quand elles ont le contrôle sur leur emploi du temps, elles aiment passer d'une chose à l'autre et donc le télétravail, par exemple, leur correspond parfaitement si elles le choisissent, hein, pas s'il est imposé. Donc, je pense qu'elles explorent ces espaces-temps poreux et qui leur permettent de nourrir leur vie les unes des autres.
Alors, sur le télétravail, est-ce que c'est la panacée ou est-ce que c'est faire double tâche? Je suis en télétravail à la maison. C'est aussi une demande que la vaisselle soit faite, que le linge soit passé à la machine à laver, voire repassé. Ça veut dire se rajouter aussi un travail domestique, peut-être plus important que si j'étais à l'extérieur, si j'étais sur le lieu de mon travail. Est-ce que ce télétravail, c'est la panacée pour les femmes?
Ben, je pense que le télétravail, c'est très bien si, à nouveau, s'il est choisi. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas n'être qu'à la maison parce que là, on se fait happer par le quotidien. Mais ce choix, enfin, je veux dire, cette liberté qu'offre le télétravail peut être vraiment très très intéressante et épanouissante, je pense. Mais je crois qu'il va falloir que le chef d'entreprise se fasse à l'idée qu'il doit responsabiliser ses employés et leur donner plus de lest, parce que, à nouveau, les jeunes aussi, jeunes hommes et femmes, veulent cette flexibilité, veulent être responsabilisés. Je crois que le modèle où on flique les gens et où on leur demande d'être là de telle heure à telle heure, ça marche plus. À nouveau, c'est un problème plus général, il me semble. Je trouve qu'on a dépassé ce modèle de... où on enferme des personnes à nouveau de 9h à 19h et on les a sous les yeux, parce que sinon on a l'impression qu'ils ne font rien. Les gens veulent plus ça.
Troisième point que vous évoquez dans votre livre pour prendre en main son destin et sa carrière professionnelle, c'est la poursuite du collectif et du sens. Ça veut dire quoi, cette poursuite du collectif et du sens ?
Alors, on revient un peu à la définition de la réussite. Cesse d'être une réussite purement individuelle. J'ai mon statut, j'ai mon titre, j'ai mon pouvoir. Je pense que le pouvoir aujourd'hui doit se redéfinir, qu'il doit être pris dans un aspect plus collaboratif, coopératif. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du pouvoir ? Il faut regarder le pouvoir du point de vue de ceux qui suivent et pas seulement de ceux qui dirigent. Et les femmes, ça c'est la philosophe Camille Froidevaux-Métairy qui le dit, ont une disposition naturellement anti-individualiste. Elles vont vers l'autre, elles ont besoin de se nourrir de l'autre à nouveau. Et ce qu'elles aiment, c'est transmettre, c'est travailler en équipe, c'est à nouveau expérimenter ce rapport où l'autre peut apporter quelque chose et n'est pas seulement vu comme un concurrent, comme quelqu'un qu'il faut abattre ou devant lequel il faut passer.
Est-ce que vous pensez... Vous avez redéfini votre réussite au féminin. Vous en êtes heureuse, oui. Alors que vous étiez avocate au sein de prestigieux cabinets d'avocats anglo-saxons à Paris, à Londres, à New York. Ça fait 10 ans que vous avez changé de voie, que vous avez fondé votre propre structure de traduction juridique. Comment ça se passe au quotidien ?
Ben, ça se passe très bien. Moi, je suis ravie. Je vais au bureau avec envie et plaisir. À nouveau, mes relations avec mes associés se déroulent de manière hyper fluide et très dans la confiance. Et il n'y a pas d'histoire de se justifier, etc. Donc, c'est un plaisir au quotidien. Moi, j'ai du plaisir à travailler. Et ça, je trouve que c'est quand même une chance. Mais ça devrait être donné à tout le monde. Pourquoi doit-on souffrir au travail ?
Merci à Céline Alix pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation. C'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles. Comme ça, on va remonter vite, vite en haut des classements. Vous pouvez aussi et surtout nous écrire pour nous envoyer des idées d'émissions, pour nous envoyer des critiques, des commentaires. L'adresse, c'est audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.